Marceau. Le matin, le matin. Ben oui.
Dans les prochaines secondes, on aura le plaisir de s'entretenir avec quoi? Un Québec solidaire dans le show à Marceau. Il y a Ariel Nadeau-Dubois qui va être là avec nous autres, qui a réalisé une super belle enquête. J'ai très hâte de lui jaser une enquête qui a été mise sur la presse, un papier quand même assez intéressant. Donc, on va parler avec Guillaume Nadeau-Dubois là-dessus. Juste avant, on va aller voir ce qui se passe sur la route, Max.
C'est un autre matin difficile après le matin d'hier qui n'aura pas été une partie de plaisir. Ça s'améliore pas pantoute aujourd'hui, rendu à 8h32, puis l'heure de pointe dans le secteur des ponts qui s'étire beaucoup. Sinon, Henri IV Sud, dans le coin de la 40, où il y a les travaux, là, c'est encore au rouge. Capitale-Ouest, tranquillement, pas vite. Ça semble vouloir se résorber, mais toujours dans le coin de l'avenue du Bourg-Royal, un ralentissement considérable. Et Robert Bourassa Sud vers le boulevard Le Bourgneuf, où il n'y a toujours pas de pont d'étagement. Là. Ben, c'est encore jamais.
Il y a un auditeur qui m'écrit, « Salut Yann, le trafic pour le pont La Porte direction nord commence à la halte routière sur la 20 Est. »
Aïe, aïe, aïe. Ouais, si il est rendu 8h30.
Si vous êtes encore capable, essayez d'aller chercher le pont de Québec. Ça va peut-être être un peu plus facile.
Et même là, c'est jamais raide aussi.
Bon,
ouais, ça va pas bien.
On ouvre les fenêtres, puis on relaxe.
On écoute la radio.
On prend de l'air. Alternance de soleil et nuages pour aujourd'hui avec un maximum de 23. Actuellement, sur Québec, on est autour de 12. Des averses cet après-midi, risque d'orage. Des averses pour ce soir, entre 10 et 15 mm annoncés, minimum de 14. Et demain, mercredi, alternance de soleil et nuages avec 30% de probabilité d'averse tard en après-midi, maximum de 20 pour demain. On parle de rénovation et construction d'écoles. On parle d'éducation. Max, on nous dit que les circonscriptions de la CAQ serait avantagé.
Oui, c'est Gabriel Nadeau-Dubois et son équipe qui, dans les derniers mois, ont fait le tour de tous les investissements en rénovation et en construction d'écoles dans le Plan québécois des infrastructures, le fameux PQI, depuis l'arrivée au pouvoir de la CAQ en 2018. Puis ce qui a été découvert, c'est que depuis l'arrivée de François Legault au pouvoir, les circonscriptions détenues par des députés de la CAQ ont bénéficié de 72% des projets d'infrastructures et de 75% des investissements totaux. Alors que la CAQ détenait 64% des sièges. Donc déjà là, tu vois qu'il y a un certain déséquilibre. Quand tu vas regarder aussi au niveau des investissements par élève, c'est plus élevé, pas mal en moyenne, quand la circonscription est caquiste. Et ce que dit Gabriel Nadeau-Dubois, c'est « Faut faire le ménage, faut mettre en place un système transparent, équitable, avec des critères clairs et des décisions publiques. » Parce que c'est un peu ça qui ressort, c'est que on sait pas c'est quoi les critères. Qu'est-ce qui va faire qu'une école va être rénovée ou pas? Et on se rend compte que les critères sont vraiment pas clairs. Et c'est un des aspects là, que Gabriel Nadeau-Dubois veut mettre de l'avant.
76 demandes d'accès à l'information qui ont été faites par la gang de Québec solidaire sous une enquête qui est quand même assez intéressante. Gabriel Nadeau-Dubois, bon matin, comment allez-vous?
Bon matin, messieurs. Bon, ça va correct après une défaite. Vous, comment ça va?
Ouais, on en reparlera tantôt après l'entrevue, si vous le désirez, parce que oui, on aime ça parler de hockey, mais parlons de votre enquête. Je trouve ça fantastique, ce que vous avez mis en place. Il y a beaucoup d'informations là-dedans. Oui. Ce que je me pose comme question, c'est est-ce que c'est quelque chose qui vous surprend? Parce que depuis que je suis jeune, les années 80, les années 90, début des années 2000, 2010 jusqu'à 2020, 2020 jusqu'à 2026, donc jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours eu l'impression que c'était comme ça. Le gouvernement privilégiait les circonscriptions où il y avait des députés qui étaient de la même couleur que le gouvernement.
Ouais, vous avez raison que c'est une rumeur qu'on entend depuis longtemps. Hein. C'est quelque chose dans les coulisses du monde politique qu'on entend depuis longtemps. Ah, on sait bien, quand vient le temps d'investir en infrastructure, puis pas juste dans les écoles, les gouvernements ont tendance à privilégier les circonscriptions où ils ont des députés. C'est une rumeur qu'on entend, mais ça n'avait jamais été démontré. Et notamment en éducation, moi je l'entends beaucoup sur le terrain, des écoles, des comités de parents, des gens des centres de services scolaires qui nous disent notre projet irait plus. On est bien conscient que notre projet irait plus vite si on avait un député de la bonne couleur dans notre région. Donc oui, la rumeur, elle existe depuis longtemps, l'impression, elle est là depuis longtemps, mais je me suis dit au lieu de le prendre pour du cash, je vais le vérifier. Donc, on fait une recherche tout au long de l'année, depuis l'automne. Et ce qu'on a découvert, c'est qu'en effet, selon différents indicateurs, là, il semble y avoir un avantage pour les circonscriptions de la CAQ. La CAQ représentait à peu près 64% des députés. Pourtant, ces circonscriptions-là ont obtenu 75% des investissements. Pourtant, c'est dans les circonscriptions caquistes où les écoles sont en moyenne au Québec les moins vétustes. C'est là aussi que les écoles sont en moyenne les plus récentes. Et pourtant, c'est dans ces circonscriptions-là qu'on a mis 75 % des investissements. C'est donc, selon moi, très difficile à justifier. Et c'est pour ça que je propose de faire le ménage et de mettre en place un système beaucoup plus transparent, parce que là, ça brise la confiance. Ça affaiblit la confiance que les gens ont, que les fonds publics sont dépensés pour les bonnes raisons.
Ouais. Gabriel Nadeau-Dubois, faites-moi rentrer dans votre travail. Vous êtes député de Gouin, vous rencontrez un directeur d'école ou une commission scolaire. Ouais. Là, tout d'un coup, on se rend compte que dans votre secteur, dans votre circonscription, il y a une école qui est désuète. Ça nous en prend une nouvelle. Vous faites comment pour faire monter ça au gouvernement?
Bon, vous savez, moi, j'ai toujours été un député d'opposition. Je l'ai été pendant 10 ans, mais j'ai jamais été au pouvoir. Donc, moi, mon petit doigt me dit que la réalité est quand même pas la même quand notre parti est au pouvoir. Mais comme député d'opposition, ce qu'on fait, c'est qu'on contacte l'équipe de la ministre. On peut lui écrire une lettre. On peut aller parler au ministre pour les sensibiliser à la réalité de notre circonscription. Ça, ce travail-là, c'est un travail normal de représentation que font les députés. Puis c'est ce qu'on veut que les députés fassent. Qui représentent les enjeux de leur coin de pays, qui fassent valoir les préoccupations de leurs électeurs face aux gens qui prennent les décisions. Par contre, quand vient le temps de prendre les décisions en question, ben, il faut que les ministres, il faut que les gouvernements prennent des décisions en fonction du bien commun, en fonction des, dans le cas des écoles, ben, en fonction des besoins des enfants, pas en fonction de l'appartenance partisane de la circonscription. Et puis malheureusement, ce que j'ai découvert dans mon enquête, puis je vous dirais, il y a des enquêtes similaires qui ont été faites au fédéral, par exemple, sur les investissements en infrastructures routières. Il y a des enquêtes qui ont été faites dans d'autres pays dans le monde, puis c'est un pattern assez commun, là. On n'est pas les seuls au Québec à réfléchir à ces questions-là. On le voit un peu partout que trop souvent, malheureusement, les gouvernements, quand vient le temps de mettre de l'argent en infrastructure, là, ben, qu'il semble y avoir un biais en faveur des circonscriptions du parti au pouvoir. Moi, je pense qu'il ne faut pas normaliser ça, il ne faut pas accepter ça, parce que la démocratie, oui, c'est un système de représentation, mais ce n'est pas un système de récompense. Hein. On ne devrait pas être récompensé.
Parfaitement d'accord avec vous. Ça fait combien d'années que vous êtes député de Gouin?
Ça va faire 10 ans bientôt.
Ça fait 10 ans. Puis en 10 ans, là, les projets que vous vouliez monter dans votre circonscription parce qu'on avait des besoins d'argent pour des infrastructures et tout ça, bon, vous, ce que vous me dites, c'est que vous pouvez écrire au ministre, vous pouvez discuter avec lui.
On peut aller leur parler,
mais est-ce qu'il y a un suivi qui est fait, un suivi rigoureux, exemple, pour une école que vous avez besoin dans le secteur de Gouin? Est-ce que vous devez les contacter aux 2 semaines ou au mois pour savoir où est-ce qu'ils en sont rendus avec ce dossier-là?
Nous, les députés, on a surtout un rôle de sensibilisation. Mais après ça, donc on sensibilise les élus, nos vis-à-vis, à la réalité de notre circonscription, puis on leur dit peut-être que tu devrais porter attention à telle situation ou à tel projet. Mais après ça, concrètement, les échanges là concernant les constructions et les rénovations d'écoles, ça se fait pas entre les élus, ça se fait entre les centres de services scolaires et les gens du ministère de l'Éducation. Et c'est là qu'il y a des échanges pour savoir comment mettre en place les projets, savoir comment les modifier pour qu'ils soient acceptés. Mais il arrive un moment, quelques mois avant la publication du fameux plan québécois des infrastructures, où là, les décisions passent entre les mains du politique. Et là, moi, j'ai fait des entretiens avec des dirigeants de centres de services scolaires, des entretiens avec aussi des anciens hauts fonctionnaires au ministère de l'Éducation. Et ce que le monde me dit, c'est qu'à partir de ce moment-là, là, les gens appellent ça la boîte noire, là. C'est le moment où la décision passe entre les mains du politique. Et là, c'est là que les arbitrages finaux se font. Là. Quel projet on va financer? Quel projet on ne financera pas? Et là, ce que tout le monde nous a dit, c'est qu'une fois qu'on est dans cette boîte noire-là, personne ne comprend c'est quoi les critères utilisés. Personne ne sait vraiment pourquoi une école va rester barricadée pendant 5 ans, pendant que dans la région d'à côté, on va en ouvrir 3-9, par exemple. Il faut faire le ménage là-dedans, il faut ouvrir cette boîte noire-là, mettre des critères clairs, objectifs, pour que tout le monde puisse comprendre pourquoi il y a de l'argent qui descend dans une école, puis pourquoi il y a de l'argent qui descend pas dans l'école d'à côté.
On a créé des centres de services scolaires. Est-ce qu'on devrait justement créer des critères objectifs clairs, distribuer l'argent aux centres de services scolaires qui, eux, géreraient justement leur secteur?
Bon, moi, j'ai essayé de pas m'embarquer dans des propositions de réforme de structure, parce qu'il y en a eu beaucoup en éducation dans les dernières années.
Beaucoup trop.
Oui, exact. Puis c'est surtout que ces réformes-là n'ont pas changé grand-chose dans la réalité quotidienne des classes et des écoles. Fait que j'ai pas voulu m'en aller dans une proposition de réforme de structure. Je me suis dit, allons-y à la base. C'est pour ça que mes recommandations sont peut-être un petit peu plus simples. Moi, je me dis, première étape, là, ce serait juste de faire en sorte que ce soit transparent. Et si vous êtes un parent dans une école ou même une direction d'école, vous voulez comprendre, ça fait 5 ans qu'on demande une rénovation, ça n'arrive pas, que ce soit possible publiquement, par exemple, là, un outil numérique comme le tableau de bord du plan québécois des infrastructures, ben, de faire le suivi du projet. Qu'il y ait comme une traçabilité des décisions et que si le projet est sur la glace parce que je sais pas moi, les plans et devis sont pas conformes parce que il y a des besoins plus grands dans la région d'à côté, ben qu'on fasse juste le dire. Tout le monde comprend que l'argent est pas infini. Tout le monde comprend qu'on pourra pas rénover 100% des écoles en un an. Et c'est pas ça le débat. Le débat, c'est est-ce qu'on peut comprendre pourquoi certaines régions, certaines écoles sont priorisées sur d'autres. Et moi, je pense qu'avec plus de transparence, on va redonner un peu de confiance aux gens dans le système. Parce que moi, ce que je constate en ce moment, c'est que la confiance est brisée. Les gens nous disent sur le terrain, moi, une directrice d'école qui me l'a dit, Gabriel, notre député, il n'est pas de la bonne couleur. On sait bien que notre projet ne sera pas financé. Moi, je ne peux pas accepter qu'en démocratie, on prenne une situation comme celle-là pour acquis.
Ce que j'aime, Gabriel Nadeau-Dubois, c'est que vous êtes dans l'opposition, vous faites une job sérieuse avec ce document-là que vous laissez connaître. Ouais. Vous formulez aussi 2 recommandations principales. Vous en avez un peu parlé, là. Établir clairement des critères stables d'évaluation des projets d'infrastructures scolaires et les rendre publics. Rendre public aussi, en vertu de ces critères, les motifs et objectifs qui justifient l'approbation ou le refus des projets par le gouvernement du Québec. Vous dites que c'est des recommandations qui sont, somme toute, simples, mais c'est vraiment de la logique. Moi, j'adore ce type de recommandation-là. Qu'est-ce que la ministre de l'Éducation a mentionné suivant la prise de connaissance de votre rapport?
Ben, j'ai pris connaissance via les médias de sa réaction hier. Bon, grosso modo, elle dit ce que beaucoup de ministres ont dit avant elle, hein, qu'il n'y a aucun critère partisan qui est utilisé.
Un mensonge.
Que c'est les besoins des enfants qui sont suivis.
Elle vous a menti.
Les ministres répondent pas mal toujours ça. De toute façon, je verrais très mal le ministre reconnaître, oui, c'est vrai, des fois, on a tendance à prioriser certains comtés plutôt que d'autres. Moi, je comprenais qu'à quelques mois des élections, je m'attendais à une réaction comme celle-là. Mais c'est pour ça que moi, j'en fais pas une démarche ultra-partisane, parce qu'honnêtement, c'est un phénomène qui, d'après moi, devait exister bien avant que la CAQ arrive au pouvoir. Donc moi, je suis pas là pour faire le procès de la CAQ en particulier. Moi, ce que je dis, c'est, je pense que si on regarde vers l'avant, là, on aurait tous avantage à mettre plus de transparence, plus d'équité dans le système. Nos écoles sont en mauvais état. On a beaucoup d'argent à investir dans les prochaines années pour redresser l'état de nos écoles au Québec. Il faut s'assurer que ça soit réparti selon les besoins. Tous les enfants ont le droit d'avoir des belles écoles, peu importe comment leurs parents ont voté. Et pour moi, c'est ça qui est le plus important, pas l'ajout de partisane, parce que, bien honnêtement, messieurs, d'après moi, je pourrais faire l'exercice pour les années libérales, puis je ne suis pas certain que j'obtiendrai des résultats très, très différents.
Ça va être quoi, votre prochain job, après?
Je ne sais pas encore.
Vous le savez très bien. Où est-ce que vous en allez?
Non, je ne le sais pas. Tout le monde pense que je le sais d'avance. Mon mandat finit quand même au mois d'octobre.
Ouais. Hein? TVA Sport ou RDS, peut-être?
Ah, ben là, ça, si j'ai une offre que je ne peux pas refuser, là, ça va être difficile.
Ça n'a pas été facile hier?
Il va falloir commencer à gagner des games à domicile, c'est ça le problème.
Ouais.
On a de la misère à gagner au Centre Bell. C'est quoi, 24 tirs dans les 2 derniers matchs contre les Hurricanes? C'est pas suffisant. Donc, j'ai bien hâte de voir la performance de... C'est quoi, c'est mercredi le prochain match?
Oui, exactement.
Mercredi? J'ai bien hâte de voir comment cette équipe-là va se comporter mercredi, parce que hier, c'est un petit peu frustrant, là, aussi peu de tirs, notamment durant la période de prolongation, là. On ne peut pas gagner une game si on ne tire pas en prolongation.
Là. On a manqué un peu d'agressivité aussi quand on a décidé de frapper de bêche, là, des petites flatouilles en arrière de la tête pour dire de ne pas toucher à notre goaler. Je pense pas que ça ait convaincu aucun joueur des Hurricanes de ne pas refaire la même affaire.
Oui, on voyait plus de jeux physiques du Canadien dans la première série contre Tampa Bay. Là, il y avait un rythme différent contre Buffalo. Je pense qu'il faut peut-être retrouver un peu cette agressivité-là puis cette attitude-là, ce swag-là qu'on avait durant la première série. Parce que les Hurricanes nous frappent beaucoup, je trouve, depuis le début de la saison.
Gabriel Nadeau-Dubois, merci.
Ça me fait plaisir, messieurs.
Au revoir.
Bonne journée.
Salut.
JND, le député de Gouin pour Québec solidaire, était avec nous pour nous faire part de son travail qu'il a fait en ce qui a trait aux investissements en construction et en rénovation d'écoles. Lui, ce qu'il disait, c'est que c'était une rumeur comme quoi il y avait certains secteurs qui étaient un peu plus privilégiés par le gouvernement et c'était souvent les endroits où il y avait des députés de la même couleur. Pour moi, ça n'a jamais été une rumeur, là. Ça a toujours été des constats. J'ai jamais vu la circonscription d'un PM qui ressemblait un peu à l'Ukraine après un bombardement russe.
Là. Non, ça va toujours bien.
On s'organise pour que la place soit droite, mais le travail qu'il a fait, ça méritait d'être...